Ouais, voilà, bon, on va arrêter le générique, hein. Mais il est pas mal, hein.
Ah oui,
J'aime bien, moi.
histoire de devenir fou.
C'est ça. Allez, c'est Canal Sud, c'est le magazine, c'est mercredi, et du coup, c'est la rubrique Le Bit et le Couteau, avec le Tétalab, avec nous, Alex et Florent, qui nous ont amené un invité, et qui représente Tétat Neutral, et j'ai mangé ton prénom.
Laurent.
Laurent, salut. Et de quoi vous allez nous parler de beau aujourd'hui?
Ben, bonjour déjà. Comme d'habitude, on va parler un petit peu d'Adopi parce que chaque fois qu'on cherche des sujets de discussion dans notre émission, eh ben, on a toujours de quoi parler sur Adopi. Donc déjà, il y a eu un rejet du recours d'Apple contre Adopi. Alors pour rappel, en fait, Apple a attaqué le fait que Adopi ait récupéré le sujet des DRM. Les DRM, c'est en fait c'est des dispositifs pour empêcher que les gens puissent copier leurs CD. Donc il a été débouté. Mais en même temps, il y a aussi FDN qui essaie de se battre pour la neutralité du réseau, qui a aussi été débouté. Et eux, en fait, voulaient attaquer Adopi pour le fait qu'on ne puisse pas se défendre une fois qu'on est jugé par Adopi. Donc voilà, première nouvelle. Deuxième nouvelle, ben, Sarkozy a parlé dernièrement de Adopi 3 en se targuant que grâce à Adopi, on avait eu 35% de baisse du téléchargement sur le P2P. Alors on sait très bien que c'est faux. En fait, les gens ont eu peur du P2P, ils sont allés sur d'autres technologies, c'est-à-dire le streaming avec en utilisant Mega Upload et toutes ces plateformes-là.
Excuse-moi, le Mega Upload, c'est le téléchargement direct, c'est pas du streaming?
Oui,
Du streaming
streaming
aussi?
et téléchargement direct.
D'accord.
Voilà, donc en fait, bon, il n'y a pas eu de baisse, les gens ont juste migré de plateforme.
Et tu parles volontairement pas du DTorrent?
Oui, il y a les torrents aussi,
Piratons.
mais
Bon, il y a parfois, il y a d'autres.
les torrents, c'est du P2P, donc.
D'accord, ah oui, c'est la même.
Oui, c'est la même techno, quoi.
D'accord, ok.
Donc en fait, pour choper les gens sur le téléchargement direct, il n'y a qu'une seule solution, c'est ce qu'on appelle le DPI. Et en gros, pour résumer, c'est en fait analyser tout ce qui passe sur le réseau et analyser tout ce que vous faites sur Internet. Donc ça, c'est en gros, ça a été utilisé en Libye, dans tous les pays autoritaires. Et donc, bah, il faut pas qu'en France, on ait la même chose, quoi, sous prétexte de téléchargement illégal.
Et il en est un peu question, enfin je veux dire nos chers dirigeants y pensent ou...
Bah, pour l'instant, Sarkozy a lancé l'idée, mais ça
D'accord.
m'étonnerait pas que ça arrive.
Et puis c'est des technologies françaises aussi, hein, qui
Oui,
sont...
il y a, comment il s'appelle? Amesis, la société Amesis.
Donc c'est des produits qui sont développés en France et qui sont testés, qui ont été reconnus comme étant testés en Libye et en Syrie,
D'accord.
et qui pourraient très bien être, vu que c'est des produits français, autant les utiliser en France sur d'autres bonnes idées.
Eh oui, c'est moins cher.
Ouais.
D'accord.
Et donc oui, alors là j'ai un petit lien rigolo sur le comment s'appelle sur la SACEM. En fait, il y a un article de Numérama qui a fait un petit calcul simple sur les salaires des dirigeants de la SACEM. Donc en fait, le dirigeant de la SACEM gagne 750 000 euros bruts par an. Donc c'est énorme pour faire un poste de dirigeant à la SACEM. Et donc en fait, en gros, plus en comptant les charges, ça ferait 1 million d'euros juste pour payer le président. Donc le calcul qu'ils ont fait, c'est que un titre sur iTunes est vendu et rapporte 7 centimes à la SACEM. Et donc en gros, il faudrait 14 millions de titres téléchargés par an juste pour payer le président de la SACEM. Et ensuite, ils ont fait un autre calcul, c'est que le total de tous les salaires des dirigeants de la SACEM représente à peu près 3,5 millions d'euros. Donc ça ferait 50 millions de titres téléchargés par an juste pour payer les dirigeants, sans reverser de sous aux artistes. Et en fait, on se rend compte que par an, il y a à peu près 50 millions de MP3 achetés sur des plateformes de téléchargement.
En
Donc
France.
en gros, les téléchargements de MP3 en France servent
À payer les
à
dirigeants.
payer les dirigeants. Bon, après, c'est un peu grossier comme calcul, mais bon, ça montre un peu comment un organisme qui n'est pas public d'ailleurs, la SACEM, peut dépenser autant d'argent dans les salaires de ses dirigeants et pas dans la promotion de la culture, redistribution aux artistes, tout ça quoi.
Oui, du coup, les lois sur l'échange direct ont bon dos, quoi.
Oui, voilà.
Ça
oui.
va servir juste à leur faire une augmentation.
Bah,
on
oui.
sait jamais.
Ouais. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? Oui, on avait un exemple de censure qu'il y a eu en France récemment. Donc, on avait déjà la censure du site Copwatch. On en avait parlé la dernière fois. Mais là, en fait, c'est la censure d'un blog de BD. Donc, c'est sur un blog de BD qui s'appelle Pirate Sourcil. Bon, il a un humour assez particulier dans ses BD. Et là, c'était un petit strip pardon, qui traitait de pornographie et surtout de pédopornographie, donc de pédophilie. Donc c'était assez gentil, assez soft. Et en fait, il a été contacté par la brigade Pharos. C'est en fait, pour résumer ça, c'est la gendarmerie du net. Et ils l'ont contraint en fait à censurer son strip BD, ou sinon il était exposé à un jugement, à des poursuites judiciaires. Donc moi je trouve ça assez grave de censurer ben quelque chose une BD qui n'avait rien de d'injurieux, ni de raciste, ni de pédophile.
D'accord. Et un peu, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette brigade Pharos, les super flics
Alors en fait, c'est pas tellement une brigade. En fait, c'est une plateforme d'harmonisation, d'analyse et de recoupement et d'orientation des signalements. En gros, ce qu'ils font, ils ont une page web où les gens peuvent librement aller dénoncer des contenus sur Internet. Bon, alors ça peut être de l'escroquerie, mais ça peut être des contenus offensants, racistes et tout ce qui s'ensuit. Après, donc, il y a des gendarmes derrière qui s'occupent de regarder tout ça.
Et ça, du coup, on n'a pas d'idée comment ça marche si plusieurs personnes y vont et posent tous le même contenu. Si ça lance une enquête ou si c'est quelqu'un qui décide à la place.
Après, je me suis dit, je vais pas essayer de mettre quelque chose dessus parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive des bricoles. Mais en gros, c'est pas de l'appel à la délation, mais c'est de la délation un peu facile, quoi. Donc, si vous voulez aller sur ce site, c'est internet-signalement.gouv.fr si vous avez envie d'aller vous amuser. Et enfin, dernière actu, c'est le Parlement européen a voté en masse pour la préservation de la neutralité du net. Alors, c'est une bonne nouvelle. Mais Laurent, qui est assez calé sur le sujet, a d'autres idées sur comment est traitée la neutralité du net par la Commission européenne.
Alors, bon, il faut savoir que les résolutions du Parlement européen sont une émanation des souhaits de l'Assemblée, mais ne sont pas des lois ni des directives qui vont finir par s'appliquer. Le vrai pouvoir de proposition législatif dans les institutions européennes vient de la Commission, et bon, Neelie Kroes a donné certains signaux sur la propriété intellectuelle qui sont plutôt positifs, dans le sens qu'elle remet en cause un petit peu après quelques années le système, mais le temps qu'une véritable résolution arrive au Parlement, une véritable directive ou proposition de loi arrive au Parlement, il y en a pour un petit moment.
D'accord, ok. Et en fait, au Parlement aussi, il doit y avoir beaucoup de lobby, non ?
Oui, le Parlement européen, bien sûr, comme tous les parlements, même les parlements nationaux, hein, il y a des lobbyings et il y a aussi, tu l'as mentionné, il y a la quadrature du net hein, qui fait aussi des actions de lobbying, mais en représentant des simples citoyens et pas des intérêts industriels. Donc c'est pour ça qu'il faut les soutenir dès qu'on peut, parce qu'ils sont un peu tout seuls. Et très petit par rapport à des gens qui ont beaucoup plus de moyens.
D'accord. Alors je sais qu'on l'a déjà fait, mais est-ce que vous pourriez rappeler un peu qu'est-ce que ça implique, cette neutralité du net ? Ça peut être toujours...
Alors la neutralité du net, ça concerne les acteurs professionnels qu'il y a derrière votre accès au réseau. Donc, vous soyez chez vous en train de consulter à l'Internet, utiliser des services sur Internet, ou chez un hébergeur en train d'offrir un service sur Internet, votre site web, du streaming radio, etc. Donc entre les deux, il y a des opérateurs professionnels qui voient passer les flux de paquets Internet, et dans certains cas, ces opérateurs peuvent décider d'aller regarder ces paquets et décider de limiter les débits carrément les interdire, les filtrer. Et donc ce genre de filtrage est assez souvent une atteinte à la neutralité des réseaux. On considère que les opérateurs doivent faire leur travail d'acheminer les paquets, mais ne doivent pas les sélectionner en fonction du protocole utilisé. Donc, est-ce que c'est du web ? Ah ben, le web, c'est d'accord. Est-ce que c'est une connexion sécurisée SSH ? Ah ben non, ça, c'est pas bien. Est-ce que c'est du streaming ? Ah ben non. Est-ce que c'est du Skype ? Ah ben, moi, je suis Orange, moi, j'aime pas trop Skype, il me pique des sous, donc non, je l'interdis. Donc, tout ça, c'est un opérateur qui est là, bon, pour vous faire passer du débit, qui décide de censurer quelque part ou de limiter un certain nombre d'activités.
Avec tous les conflits commerciaux qu'on peut imaginer.
Avec tous les conflits d'intérêts entre les différents acteurs et le consommateur abonné Internet ou celui qui essaie de faire vivre son site web sont pris en otage de ce genre de conflits.
On ne sait pas forcément ce que ça implique de s'adresser à tel ou tel opérateur quand on choisit son abonnement.
Alors, je crois que la Commission européenne et les institutionnels ont aussi dit bon, il manque un petit peu de transparence dans les pratiques des acteurs, hein, qui sont vraiment au cas par cas. Je peux citer mon expérience de tétaneutral.net chez le président de Tout Libre, l'association de logiciels libres toulousaine, qui était en déplacement à l'étranger et qui voulait accéder à son serveur à tétaneutral. Et au niveau technique, on avait mis un accès sur ce qu'on appelle un port non standard pour l'accès sécurisé à la machine hébergée. Et ce port-là était filtré par le hotspot auquel il se connectait, et donc il m'a appelé, on a regardé, on a mis un petit moment à comprendre pourquoi ça marchait pas, et donc on a changé de port, hein, parce qu'il faut savoir que toutes ces mesures de filtrage sont un petit peu illusoires, hein, donc ça passe par quelque part, on peut tout refaire passer techniquement avec diverses technologies un petit peu avancées, mais on peut y arriver, et donc on a fait ce qu'il fallait pour qu'il puisse se connecter, mais ça c'est la vie de tous les jours sur un réseau où les gens respectent pas la neutralité du réseau.
D'accord. Merci.
Ensuite, tu voulais que l'on parle du cul.
Oui, du cul, c'est un virus.
Le virus du cul.
C'est ça. qui s'est attaqué au mois de novembre à plusieurs postes, en fait, plusieurs postes de programme qui étaient dans le SCADA. Donc c'est.
Alors, j'ai un peu regardé ce qu'était ouais. Le virus du cul. Et en fait, c'est un virus qui descend du virus Stuxnet.
Voilà,
on en a beaucoup parlé de celui-là. Ouais. Et en gros, le virus Stuxnet s'attaque à des automates de la firme Siemens.
D'accord.
Et qui, en gros, à la fin, on a découvert qu'il avait été élaboré par l'armée israélienne. Enfin... Un dirigeant de l'armée israélienne a dit que ça venait de chez eux, quoi. Et donc, en fait, c'est quand même un gros, gros virus parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de boulot dessus. Et donc, en fait, ce qu'on a compris, l'armée israélienne a fait ce virus pour s'attaquer aux centrales nucléaires, à tous les dispositifs nucléaires de l'Iran. Donc, je crois que ça a été le cas, puisque l'Iran a avoué avoir dû stopper ses centrales et tous ses systèmes nucléaires. Mais aussi, ça s'est attaqué à tous les systèmes utilisant des automates Siemens. Donc, il y a surtout tout ce qui est gestion des eaux, les autres centrales nucléaires. Et donc, un truc assez grave. Et en fait, ce virus... est très virulent parce que il a la possibilité de changer son code source automatiquement. Il va se connecter à un site web spécifique, mais s'il n'a pas accès à ce site web spécifique, il peut se mettre en réseau avec d'autres machines qui ont peut-être un code plus avancé que lui-même. Et aussi, également, il est très très difficile à détecter par tout ce qui est antivirus, tout ça. Voilà, donc...
D'accord. Et il y a des risques de perte de contrôle de ce virus ?
Alors, une des news aussi par rapport à la nouvelle de la semaine dernière qui s'est passée au Texas, où en gros, il a été dit que quelqu'un a contrôlé des pompes à eau et les a détruites grâce à l'utilisation de ce virus. Le truc, c'est qu'en général, ces pompes à eau industrielles sont installées par des installateurs qui ne se soucient pas de toute la partie informatisée du système. Donc, ils posent juste le truc en place et ça marche et voilà, ils ont fini leur travail. Donc, comme sur les routeurs à la maison, sur les modems internet, il y a un mot de passe par défaut. Et donc, ce mot de passe par défaut aurait été utilisé pour rentrer dans le système et poser ce type de virus-là. Donc, et de pouvoir modifier comment fonctionnait la machine des pompes à eau. Et donc, voilà. Donc, ça n'a pas été très compliqué pour celui qui a pu le faire ou ceux qui avaient l'intention de le faire. Avec un mot de passe par défaut. Donc, il y a des gens qui sont renseignés sur les sites de Siemens pour retrouver que le mot de passe par défaut, c'était un mot de passe à trois chiffres qui était 100.
Ce qui voilà. Est assez ridicule.
Ils n'ont pas passé trop de temps. Enfin, c'est pas un truc phénoménal.
Ils auraient pu mettre 1, 2, 3, 4 ou password. Ça aurait été plus sympa.
Justement, ils avaient changé. J'imagine qu'ils se pensaient beaucoup plus en sécurité. Ouais.
D'accord.
On fait une. Ouais, je pense qu'on a fini avec l'actu.
On a fini avec l'actu. Avant de passer au dossier, on s'écoute une petite chanson.
Et j'aimerais répéter aussi que vous pouvez suivre l'émission sur canalsud.tetala.org afin de poser les questions et de voir les liens par rapport au sujet dont on parle pendant l'émission.
Tout à fait, ouais. Réagir en direct. Qu'est-ce qu'on s'écoute ? Alors, j'ai le thème de Tetris ou alors j'ai OK Go Get Over It ? Lequel vous préférez ?
Bah, c'était OK Go à la base.
Allez, on va écouter ça alors.
Get over it. Hey.
Voilà, donc c'est Canal Sud, c'est le magazine, et c'est les chroniques du Tête à Lab. Et donc on avait prévu, vous aviez prévu des dossiers ?
Ok, donc pour aujourd'hui, on a invité Laurent à nous parler de l'association qu'il a montée il y a presque un an, qui s'appelle tetaneutral.net.
Alors tetaneutral.net est une association, comme le mentionne Alexandre, elle a été créée début janvier de cette année, donc on aura bientôt un an. Et l'objectif de cette association est de promouvoir la compréhension de l'Internet. Donc beaucoup de gens sont utilisateurs de l'Internet actuellement, et en fait, il y a assez peu d'informations sur comment ça marche, quel est le comportement des opérateurs sur Internet, quel est leur modèle économique, quels sont les enjeux sociaux un peu partout dans le monde. Donc l'association vise à aider le public, les associations, les élus à s'impliquer, à comprendre un petit peu comment ça marche. Donc dans cette optique-là, au-delà d'une simple association entre membres, pour être crédible et avoir un projet vivant, l'association a décidé de devenir fournisseur d'accès à Internet, hébergeur et opérateur. Donc nous avons enclenché toutes les démarches légales pour devenir opérateur. Enfin, fournir un accès Internet en France suppose de monter un petit dossier auprès de l'ARCEP, l'autorité des opérateurs télécoms en France, et des postes et des communications électroniques, de demander des ressources, donc ce qu'on appelle des adresses IP, hein, qui sont connues pour Adopi, l'identifiant sur Internet des utilisateurs. Donc ça se demande auprès d'un organisme européen qui s'appelle le RIPE, R-I-P-E. Vous pouvez le trouver sur RIPE.net. Donc une fois que ces démarches plutôt administratives ont été faites, l'association a commencé à construire son propre réseau. Donc pour cela, nous sommes allés voir Mixart Miris, qui est un collectif d'artistes autogérés, qui est bien connu des gens du Theta Lab, parce que le Theta Lab est dans le local de ce collectif depuis plusieurs années. Nous avons fait venir une fibre optique au local du collectif d'artistes.
Alors attends, tout ça, c'est ça se fait pas aussi simplement aussi, enfin, faire venir une fibre optique dans le collectif, comment on prend sa pioche?
Alors, on n'a pas fait de trou dans le sol. Alors, il faut savoir que le site de Mixart Miris est au-dessus des ponts jumeaux, juste à côté entre le canal latéral et le boulevard de Suisse. Et en fait, c'est un lieu assez stratégique pour la fibre optique, parce qu'il y a pas mal d'arrivées de fibre optique sur Toulouse qui arrivent en suivant le canal. Et c'est une zone industrielle où il y a plusieurs entrepôts, des électriciens, des vendeurs de peinture, etc. Donc c'est une zone pas trop habitation, mais plutôt industrielle. Et là, au milieu de ces bâtiments, en fait, il y a deux, ce qu'on appelle data centers, donc des centres d'hébergement de machines et de routeurs, de l'infrastructure technique de l'Internet. Donc il y a celui de SFR, hein, qui est juste derrière de Mixart Miris, hein, qui est complètement invisible, hein, il y a juste une petite porte avec peut-être une petite plaque quelque part. Et un autre data center qui est juste à côté, à 200 mètres, qui est le data center de l'opérateur international Cogent. Alors, Cogent, peut-être certains auditeurs se souviennent de ce nom-là, car au moment du basculement du trafic, justement, entre le peer-to-peer et des sites de téléchargement direct comme Mega Upload est un client de Cogent. Et il y a eu des petites brisbilles entre Orange et Cogent sur la nature de leur interconnexion, la quantité de données que ces deux opérateurs pouvaient s'échanger et à quel prix. Et donc Cogent est aussi présent à Toulouse. Et donc là, avec l'aide de petites sociétés toulousaines comme fullsafe.com, nous avons monté un dossier auprès de cet opérateur pour leur demander l'autorisation de faire un nouveau trou dans leur bâtiment pour faire entrer une nouvelle fibre optique. Nous sommes aussi allés voir le propriétaire de la parcelle qui sépare Mixart Miris de Cogent pour lui demander l'autorisation de poser. Alors on a expliqué ça en disant que ça ressemblait à un tuyau d'arrosage, hein, parce que bon, une fibre optique c'est juste un câble, il n'y a pas d'électricité dedans, hein, il n'y a pas de métal, etc. C'est complètement neutre. Et tout le monde a dit oui, donc un mécène a financé l'opération. Et nous avons fait appel à des professionnels, hein, qui travaillent pour des opérateurs classiques comme France Télécom, SFR, etc., qui nous ont fait un devis ajusté à nos besoins et qui ont mis une petite semaine à dérouler les 300 mètres de fibre entre le data center et le local du collectif d'artistes.
D'accord. Et alors du coup, ça en est où maintenant? Vous êtes où diffusé?
Alors, donc, pour fournir de l'accès Internet, on avait plusieurs pistes pour arriver chez les gens, chez les utilisateurs. Donc il y a d'abord une offre de French Data Network, FDN, dont le président est Benjamin Bayard et qui est une association qui accessoirement est le plus vieux fournisseur d'accès Internet de France. Et qui a ce qu'on appelle dans le monde des opérateurs un contrat de collecte ADSL, hein, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire du dégroupage partiel avec un contrat avec un opérateur tiers qui s'appelle Nérim, qui est un opérateur qui cible plutôt les professionnels. Donc l'association FDN a un contrat de collecte avec Nérim, donc il peut récupérer des lignes ADSL un peu partout en France. Et FDN s'est proposé donc dans une initiative appelée FAI locaux, donc fournisseurs d'accès Internet locaux, a dit aux gens partout en France, ben, montez votre propre association, devenez fournisseur d'accès Internet, donc faire les démarches administratives que j'ai mentionnées au début de tetaneutral.net. Nous avons simplement suivi les indications de FDN. Et FDN donc se propose de partager ce contrat de collecte. Donc des associations qui n'ont pas d'infrastructure peuvent quand même devenir fournisseurs d'accès Internet, passent un contrat avec donc un nouvel organisme, c'est la Fédération FDN, qui regroupe quelques associations comme tetaneutral.net, donc Illico en Corrèze, Aquilenet à Bordeaux, francilien.net à Paris, et il y a d'autres, LDN en Lorraine, qui d'autres initiatives que vous pouvez retrouver sur le site de FDN. Et donc techniquement ça marche pour un certain nombre d'associations, et tetaneutral.net a demandé un mode particulier de partage de ce contrat, qui est un mode où les adresses IP qu'on va donner aux abonnés sont plus celles de FDN mais les nôtres. Donc ça demande un petit développement technique dans l'infrastructure de FDN, bon, qui est une association gérée par des bénévoles, hein, comme tetaneutral.net, donc ça prend un petit peu de temps, donc cette partie-là n'est pas encore prête. Donc tetaneutral.net ne sait pas encore faire de l'ADSL, mais ça va venir. Oui. Et les utilisateurs peuvent déjà prendre une ligne FDN s'ils le souhaitent. Elle basculera sans frais sur tetaneutral.net quand ça sera prêt. Et la deuxième méthode que nous avons choisie, c'est avec l'association toulouse-sans-fil.net, donc toulouse-sans-fil.net. Je crois que le site n'est pas disponible actuellement, mais l'association existe toujours et fait des réunions de temps en temps. Donc c'est une association qui a développé un réseau radio longue distance, donc sur quelque chose qui est proche du Wi-Fi, mais qui n'est pas tout à fait la même technologie que ce que vous utilisez chez vous sur votre box, qui permet de faire des liaisons de plus haute capacité et à plus longue distance. Et donc cette association-là suivait ces technologies depuis un petit moment, avait un petit réseau sur Toulouse et les environs. Et donc nous sommes allés les voir et nous avons décidé de partager ce réseau. Et donc les abonnés qui sont pas très loin d'un site radio de ce réseau-là peuvent devenir membres de tetaneutral.net et obtenir un accès Internet par ce biais-là. Donc là, le déploiement du réseau est pas très rapide. Nous sommes en contact avec des institutionnels, hein, que ce soit des élus, des associations comme Canal Sud ou Radio Occitana. Parce que nous cherchons des PME, nous cherchons des points hauts où placer nos petits équipements radio pour pouvoir couvrir un petit peu mieux Toulouse et pouvoir proposer plus largement aux Toulousains que ça intéresse ce type d'accès.
D'accord, donc ça c'est la prochaine étape.
Voilà, donc là c'est en cours. Donc bon, j'ai rencontré plusieurs élus, j'ai rencontré Erwan Montubert à la mairie de Toulouse, j'ai rencontré des gens donc plutôt au niveau technique toujours dans le Grand Toulouse. Et donc ça, bon, ça prendra un petit peu de temps, je pense, le temps d'obtenir des autorisations et des collaborations avec diverses institutions pour pouvoir étendre ce réseau. Et tetaneutral.net, au-delà de l'accès Internet, fournit aussi des services à ses membres d'hébergement. Donc, avoir sa présence sur Internet implique de passer par ce qu'on appelle un hébergeur. Donc, vous louez un serveur ou un petit bout de site web. Et comme on a une fibre optique avec une grande capacité qui arrive à Mixart Miris, on a décidé aussi d'offrir aux membres la possibilité de ou prendre ce qu'on appelle une machine virtuelle, donc un petit morceau d'une machine réelle qui ressemble à un serveur vu de l'extérieur, ou d'amener leur machine et de la poser, de la connecter à la fibre optique, avec la particularité que on peut prendre tout type de machine, pas forcément des machines professionnelles prévues pour les data centers professionnels. Donc vous pouvez prendre un petit netbook, un nettop, un NAS, un vieux laptop, et l'amener et la poser, et ça devient votre serveur de secours sur Internet, personnel pour vous sauver vos données, un site de secours pour votre association ou votre PME. Et donc tout ça, on a repris la philosophie de Mixart Miris avec une participation libre et nécessaire. Donc on donne des fourchettes tarifaires et les associations qui viennent de se créer et qui n'ont pas d'argent, on les héberge gracieusement. Des associations un peu plus institutionnalisées avec des membres et des financements contribuent à hauteur de ce qu'elles estiment juste pour le service.
D'accord. Et tu parlais aussi de sensibilisation, d'expliquer un petit peu les implications d'Internet.
Oui. Alors, donc l'association a organisé ou participé, à plusieurs conférences et ateliers. Donc, nous sommes allés l'an dernier au Toulouse Hackerspace Factory, qui était organisé par le Theta Lab à Mixart Miris. Nous avons donné une conférence pour présenter comment ça marchait Theta Neutral. Là, nous serons présents donc à un événement qui a lieu ce week-end, qui s'appelle le Capitole du Libre. Donc, vous pouvez aller sur le site web capitoledulibre.org, tout collé. Donc, qui est organisé par l'association Tout Libre en correspondance avec d'autres associations, donc Ubuntu FR, Academy FR et Drupal. Ça a lieu donc samedi après-midi à partir de 13h jusqu'à 21h et le dimanche de 10h à 17h. Le lieu, c'est l'Enseit, juste à côté de Saint-Aubin, 2 rue Charles-Camichel. Et donc là, tetaneutral.net aura un stand à l'accueil de la conférence. Et Jérémy Zermirman, qui parlera de sujet de la quadrature du net, fera sans doute une petite aparté sur notre projet. Et sinon, nous avons aussi organisé, toujours avec Tout Libre, un samedi, un atelier sur des sujets techniques, pour le moment, internes à l'association, parce qu'on a besoin de pas mal de techniques pour faire tourner toute notre infrastructure. Et dès qu'on sera un petit peu plus au point, on pense faire des petites conférences sur des sujets qui intéressent les gens. Donc on a une liste de discussion qui est complètement ouverte. Vous pouvez accéder à partir du site tetaneutral.net, venir vous inscrire et voir si le projet vous intéresse ou pour apprendre des choses ou pour faire des choses à l'intérieur de l'association.
D'accord. Moi j'avais quand même une petite question, on en a déjà un petit peu parlé la dernière fois quand on s'est rencontrés, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu du fait de diffuser du Wi-Fi comme ça? Il y a quand même certains points au niveau de la santé qui sont un peu obscurs, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, alors le Wi-Fi effectivement qu'on utilise pour faire des liaisons longue distance, c'est des ondes radio, donc techniquement ça fait partie de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, qui est un bien commun public, parce que c'est vraiment dans l'environnement qui nous entoure. Ce spectre électromagnétique, il y a des règles pour l'utiliser. Le régulateur, le législateur fait des lois en disant, la télévision, ça se passe à tel endroit sur le spectre, on a droit à telle puissance d'émission. La radio FM comme Canal Sud, c'est un autre endroit du spectre, donc c'est 92,2 si je ne me trompe pas, MHz pour Canal Sud. Le Wi-Fi de votre box chez vous, c'est du 2,4 GHz. Et nous, on utilise donc pour la partie longue distance un Wi-Fi qui est à 5,5 GHz. Donc ça, les deux bandes Wi-Fi ont la particularité d'être des bandes libres, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas soumises à autorisation, juste au respect des puissances d'émission. Donc votre Wi-Fi 2,4 GHz à la maison, il est configuré pour émettre avec une unité de mesure qu'on appelle la PIR, donc il y a un terme assez barbare qui s'appelle puissance isotropique rayonnée équivalente, donc une mesure de puissance comme la puissance électrique qui se mesure en watts. Donc le Wi-Fi c'est 100 milliwatts, donc 0,1 watts, en 2,4 GHz, en 5 GHz c'est 0,5 watts. Et ensuite, bon, par exemple, un mât d'émission radio comme celui de Radio Occitania ou Canal Sud diffuse sur Toulouse, c'est une radio associative, donc les puissances autorisées sont de 1000 à 2000 watts. Donc beaucoup plus, ça y est depuis longtemps. Mm-hmm. Les radios commerciales, c'est 5 ou 6 000 watts, bon, toujours au maximum, hein, ça dépend du site, hein, les gens le règlent de manière différente. Les téléphones sans fil, les GSM, bon, les gens les connaissent, donc ça émet environ 1 watt quand ça essaie de joindre la borne de l'opérateur. Les bornes d'opérateur, bon, c'est quelques dizaines de watts. Les téléphones sans fil à l'intérieur de la maison, les téléphones DECT, c'est 150 milliwatts, donc un petit peu plus que le Wi-Fi, et ça envoie des ondes en permanence. Le CPL envoie aussi des ondes en permanence. Donc, ce qu'on explique aux gens qui nous posent des questions là-dessus, c'est que le spectre électromagnétique est déjà utilisé par des tas d'applications depuis des années. Nous, on n'est pas médecin et on fait pas des études scientifiques sur le sujet. Donc on sait clairement qu'à partir d'un certain niveau de puissance, les ondes sont nocives pour la santé. Hein, ça, certains métiers très exposés aux ondes, comme des opérateurs radars militaires, etc., ont des problèmes de santé assez rapidement. Le Wi-Fi est parmi les utilisateurs qui ont le moins de puissance émise de tout le spectre électromagnétique. Donc c'est un risque relatif. Nous, on n'a pas vraiment d'intérêt commercial là-dessus. On est une toute petite association. Donc on peut prendre le temps de discuter avec les gens. Et bon, si les personnes ne souhaitent pas utiliser ce genre de système, on ne les force absolument pas, bien sûr, à les utiliser.
D'accord. Ben c'était très clair. Merci. D'autres questions sur Theta Neutral ? C'est bon ?
C'est bon. C'est bon. Donc on a des questions sur le pad là, qu'on a utilisé pendant l'émission. Notamment que des questions de Sylvain Vivreau-Vasseur, qui est notre troll officiel au Theta Lab. Et parmi les questions, on a parlé d'imprimante 3D à la dernière émission. Il nous demande si on peut faire fonctionner une imprimante 3D, donc c'est une imprimante qui imprime des objets à partir de plastique sans utiliser de matière fossile. Donc le plastique utilisé dans les imprimantes 3D, c'est du PLA. Enfin, un des plastiques qui peut être utilisé, c'est du PLA. Donc c'est du plastique issu de maïs. On a rajouté sur canalsud.theta.org tout plein d'informations pour vous renseigner par rapport à ce plastique. C'est de l'acide polylactique et c'est une transformation de l'amidon de maïs pour faire du plastique qui fond à 185 degrés et qui redevient dur juste en dessous. Une autre question, on nous demande si on fait du porno. Donc on a un site un peu connu qui s'appelle wemakeporn.thetalab.org. Où, en effet, il n'y a pas d'image subjective, mais il y a quand même du contenu intéressant. Je vous invite à aller voir. Et dernière question...
Attends, il faut peut-être expliquer pourquoi ça s'appelle We Make Porn, ou rappeler.
Pour rappeler l'histoire de We Make Porn, c'est lié à la liberté du net, où ça a commencé en Allemagne, où des députés voulaient commencer à filtrer Internet par rapport aux sites de pornographie, en mettant le doigt sur la pédopornographie. Et donc ils ont commencé à sortir des stickers We Like Porn pour dire que la plupart des utilisateurs internet continuaient à regarder la pornographie sur internet et que forcément ça n'avait pas tellement passé. Et donc on a continué sur cette idée-là en disant qu'en plus de bien aimer, on en faisait. Donc après ça regroupe pas mal d'idées, ça regroupe la question de en plus d'aimer, de le faire, au sens général, quoi, pas que pour la pornographie. Et après, ouais, chacun retrouve le message qu'il veut l'idée qu'il veut dans ce message-là. Et je voulais dire un truc par rapport à ça et j'ai oublié. Bon, tant pis.
C'est sans doute peut-être que c'est une forme de lutte contre toutes les censures, parce que tous les outils dont on a parlé qui sont mis en place ont toujours un prétexte derrière. Donc bon, il y a les bonnes mœurs, bon, il y a évidemment les criminels, mais ensuite une fois que les outils sont en place, les autorités et peut-être d'autres types d'utilisateurs vont s'en servir. Et une fois que c'est là, ça va s'étendre. Alors on va interdire ci, on va interdire ça. Mmh. Et à la fin, l'Internet avec la liberté d'expression consacrée par le Conseil constitutionnel via l'Internet sera menuisée. Mmh. Donc ce genre de campagne, bon, moi c'est mon interprétation personnelle, c'est aussi de faire un pied de nez à la censure et de dire écoutez, bon, il y a des sujets graves, c'est vrai, mais il y en a partout dans la société et on n'interdit pas tout et il n'y a pas de raison d'aller porter atteinte à la liberté d'expression telle qu'elle est, elle peut se pratiquer maintenant sur Internet.
Et d'ailleurs, ça s'est passé le mois dernier en Angleterre, où depuis le mois dernier, alors je ne sais pas trop comment ça se passe parce que je n'ai pas eu de nouvelles par rapport à ça, mais il y aurait une loi, ils auraient passé une loi qui demande aux utilisateurs d'Internet de s'enregistrer auprès de leur fournisseur d'accès pour consulter certains sites pornographiques. Donc je ne sais pas à quel point ça a été mis en place ou c'était juste... je crois qu'il y avait une menace par rapport aux fournisseurs d'accès. S'ils ne mettaient pas en place ce genre de truc dans les 6 prochains mois, ils allaient passer en mode... enfin, le gouvernement qui allait passer en mode un peu plus actif par rapport à ça. Et dernière question, on parle du Theta Lab et de Theta Neutral. On nous demande ce que ça veut dire Theta dans le préfixe. L'origine de Theta dans Theta Lab, je me souviens plus trop. C'est un soir, il y a quelqu'un qui avait trouvé le mot. Du coup, on a dit que c'était que ça convenait très bien. Et Theta Neutral, c'est parce que la plupart des membres du Theta Neutral sont issus de Theta Lab, ou alors se sont rencontrés à Theta Lab pour démarrer leur expérience sur la construction d'un fournisseur d'accès.
Oui, je ne connais pas l'origine du Theta de Theta Lab, mais nous avons repris ce nom-là pour thetaneutral.net en mettant neutral.net, évidemment pour faire référence à la neutralité du réseau.
Voilà. Voilà, donc pour les événements à venir, on parlait du Capitole du Libre ce week-end. Donc pareil, samedi et dimanche à l'ENSET, juste à côté de Saint-Aubin. Et un autre événement qui est l'AG du Theta Lab la semaine prochaine, mercredi la semaine prochaine. Donc le Theta Lab, c'est un lieu de rencontre tous les mercredis soirs à partir de 21h à Mixart Miris. Mixart Miris, c'est un lieu culturel où vous pouvez rentrer. Donc le mercredi soir, si vous venez à 21h, il fait nuit, vous rentrez dans l'entrepôt, vous allez entendre du bruit et voir du monde. Si vous voulez venir avec un pack de bière, ça ferait plaisir à tout le monde. Et vous pourrez rencontrer d'autres personnes pour parler de sujets technologiques et de bidouilles informatiques. Et voilà, donc exceptionnellement, la semaine prochaine, il n'y aura pas de rencontre de ce genre, ce sera l'AG du Theta Lab. Et voilà, vous pouvez voir les discussions qu'il y a entre les membres du Theta Lab par rapport à ce que ça veut dire l'association.
Et je précise aussi que bon, il y a souvent des membres de Theta Neutral qui sont au Theta Lab le mercredi soir, donc c'est aussi une occasion de venir nous rencontrer et de discuter du projet Theta Neutral à côté du projet Theta Lab.
Très bien. Eh bien, rendez-vous est pris. Vous voulez rappeler une dernière fois peut-être les sites internet, ou alors rappeler peut-être que sur le pad, on peut les retrouver tous les sujets.
Vous pouvez retrouver tous les sujets sur canal sud tetalab.org. Le site de Tetalab, c'est tetalab.org, et le site de Theta Neutral, c'est tetaneutral.net.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
On se donne rendez-vous dans 3 semaines pour une prochaine chronique. Du bit et du couteau.